France Culture.
Qu'elle était imprudente, hélas.
Qu'elle était imprudente.
Sans doute,
hélas.
Elle ignorait qu'un pareil mariage devient un funeste esclavage quand l'amour ne le forme pas.
Quand l'amour ne le forme pas.
Marie-Catherine D'Aulnoy, Si les faits m'étaient comptés. Dominique Prusac, Anne Fleury.
Ces quelques vers de Madame D'Aulnoy, tirés de son conte « L'oiseau bleu », semblent renvoyer à sa propre situation. Le 6 mars 1666,
au jardin du Luxembourg,
elle est conduite à l'hôtel pour être mariée à l'église paroissiale de Saint-Gervais. Âgée de 15 ans seulement, Marie-Catherine épouse le baron D'Aulnoy, qui est lui âgé de 46 ans. On pourrait parler d'un mariage arrangé, ça c'est absolument indiscutable, et un mariage arrangé plutôt sordide, plutôt vénal. D'un côté, vous avez une famille aristocratique qui a une légitimité au niveau de la naissance, mais qui est fauchée. Et de l'autre côté, ce baron D'Aulnoy, très honorablement riche, mais qui n'a en fait qu'un titre d'opérette, dans la mesure où il semblerait que ce soit avec un faux qui se soit procuré ce titre, et qui est bien entendu avide de reconnaissance sociale et le mariage qui vient donner à chacun ce qui lui manque.
La bonne petite souris. Il y avait une fois un roi et une reine qui s'aimaient si fort, qu'ils faisaient la félicité l'un de l'autre. On appelait ce royaume le pays de joie. Il arriva qu'un roi voisin du roi joyeux vivait tout différemment. Il était ennemi déclaré des plaisirs. Il avait une mine renfrognée, une grande barbe, les yeux creux. Il était maigre et sec, toujours vêtu de noir, des cheveux hérissés, gras et crasseux. Pour lui plaire, il fallait tuer et assommer les passants. Il pendait lui-même les criminels. Quand une bonne maman aimait bien sa petite fille ou son petit garçon, il l'envoyait quérir, et devant elle, il lui rompait les bras ou lui tordait le cou. On nommait ce royaume le pays des larmes.
Marie-Catherine, le jumelle de Barneville, est née vraisemblablement à Barneville, Barneville-la-Bertrand aujourd'hui, en Normandie.
Nathalie Grande.
Venant donc d'une famille à la fois de la petite noblesse normande, mais la noblesse même petite peut être en lien avec la grande. Sa mère devient veuve. Il se trouve qu'elle a un frère qui meurt avant d'atteindre l'âge adulte et elle est donc la seule héritière. Avant 18 ans, elle se retrouve déjà avec 4 enfants. On peut penser aussi qu'elle voit très bien que si ça continue, la mort l'attend, puisque les grossesses à répétition sont la meilleure voie vers le cimetière.
Et c'est la mère qui a organisé le mariage pour que sa fille soit bien nantie.
Sa mère, effectivement, elle s'appelle Judith Angélique de Saint-Pater. Elle acquiert le titre de marquise de Gudane en seconde noces. Et effectivement, la mère et la fille ont une relation de proximité et de complicité qui durera bien longtemps et qui les mènera aux pires extrémités.
Et les enfants arrivent très vite. Est-ce la preuve d'un mari sérieux ou volage ?
Non seulement volage, mais surtout débauché. Parce qu'en fait, ce mari s'est élevé d'une manière un petit peu surprenante, à savoir qu'il était un des familiers, pour ne pas dire un des mignons du duc de Vendôme, dont l'homosexualité était notoire. Il est devenu valet de chambre, homme de confiance, administrateur, et c'est au duc de Vendôme qu'il doit son ascension sociale.
Nadine Jasmin, vous êtes universitaire, vous avez beaucoup écrit sur Marie-Catherine D'Aulnoy. Est-ce que, elle écrira plus tard, bien sûr, Marie-Catherine D'Aulnoy, mais dans ce qu'elle a écrit, est-ce qu'on retrouve justement ce mariage vraiment très malvenu?
Je me méfie toujours des parallèles entre la vie et l'œuvre, parce que c'est toujours un petit peu facile, un peu risqué. Cela étant, il y a quand même un thème récurrent dans ces contes, c'est celui de l'époux monstrueux. Soit franchement monstrueux, ou diabolique, ou animal métamorphosé, mais l'incarnation d'une menace envers une princesse qui est toujours une charmante jeune fille comme elle pouvait l'être. Voilà. Ce sont des épisodes caractéristiques, bien sûr, de certains contes, mais c'est vrai qu'on les retrouve quand même vraiment de manière récurrente dans les contes de Madame D'Aulnoy.
Abricotine entra aussitôt dans son carrosse volant et s'en alla plus vite qu'un oiseau. Dès qu'elle fut de retour, elle transporta son palais. Elle en chassa les gardes et les officiers.
Elle prit des femmes de race d'Amazone. Elle les envoya autour de son île pour y faire une garde exacte, afin qu'aucun homme n'y pût entrer. Elle nomma ce lieu l'île des plaisirs tranquilles. Elle disait toujours qu'on en pouvait avoir de véritables quand on faisait quelque société avec les hommes. Elle éleva sa fille dans cette opinion. Il n'a jamais été une plus belle personne. C'est la princesse que je sers. Et comme les plaisirs règnent avec elle, on ne vieillit point dans son palais. Tel que vous me voyez, j'ai plus de 200 ans. Le prince lutin, Madame d'Aulnoy.
Dans les contes, il y a toujours une marraine, une bonne fée qui va venir résoudre d'un coup de baguette magique les situations les plus problématiques. Sauf que nous ne sommes pas dans un conte de fées, nous sommes dans la vraie vie. Et c'est de manière beaucoup plus spectaculaire et tragique que Madame d'Aulnoy va essayer de résoudre, si j'ose dire, son mariage malheureux.
Et le baron d'Aulnoy, il habite pas loin d'ici, il habite au palais.
Il faut savoir qu'il a, on dirait aujourd'hui, magouillé. Et du coup, qu'une cour de justice vient lui réclamer des comptes, et en particulier une taxe de 40 000 écus à restituer au roi. Le baron d'Aulnoy est donc complètement furieux contre la justice royale, furieux contre Louis XIV, et il s'est réfugié au Luxembourg, parce qu'à l'époque, c'est une espèce de lieu réservé où il est interdit, sauf ordre express du roi, d'arrêter qui que ce soit. Il faut bien se remettre dans l'ambiance de l'époque. En 1669, Colbert et Louvois sont aux côtés de Louis XIV pour mener une politique économique et sociale. Et le pays est quand même très mécontent de cette politique, d'un côté ce qu'on appellerait nous maintenant une politique d'austérité, et de l'autre une cour qui dépense de manière fastueuse et somptuaire. Donc le roi redoute des attentats possibles et une répression politique est à l'œuvre, particulièrement en 1669.
Que se passe-t-il exactement au Luxembourg, justement près de ce grand bassin ?
Il s'agit de faire accuser le baron d'Aulnoy de crimes de lèse-majesté à l'encontre de Louis XIV, le roi Soleil. Le Luxembourg est le lieu qui a été choisi, puisque le baron d'Aulnoy s'y est réfugié, pour exécuter le complot, avec la complicité de deux gentilshommes soudoyés pour témoigner contre le baron d'Aulnoy. Mais évidemment, comme dans tout bon roman, rien ne se passe comme prévu.
L'écho du siècle, 1963.
Quand le baron d'Aulnoy arriva le lendemain soir chez lui, il y trouva non point son épouse ni sa belle-mère, mais les gens d'armes du roi qui, brandissant un ordre contresigné Colbert, et nonobstant jurons, cris, menaces et protestations de l'intéressé, l'emmenèrent pieds et poings liés à la Bastille. Hélas, un cruel mécompte attendait la baronne d'Aulnoy et sa mère. Monsieur le lieutenant criminel, en instruisant l'affaire, ne s'aperçut-il pas que le baron était plus innocent que ses moustaches et victime de machinations calomnieuses? Colbert, avisé et légitimement indigné, donna l'ordre d'arrêter Lamoisière et Courboyer, qui commencèrent par nier comme de beaux diables, mais qui, soumis par le sieur Barbotte, auxiliaire du greffier Lancluse, aux questions ordinaires et extraordinaires, avouèrent, les os rompus, qu'ils avaient accepté de jouer, à la suggestion des dames de Gadagne et d'Aulnoy, sa fille, le rôle d'agent provocateur et dénonciateur contre le sieur d'Aulnoy, mari de cette dernière. Le 13 décembre 1669, Lamoisière fut décapité sur la place de Grève, et le lendemain, Courboyer. Entre-temps, chargé d'appréhender mesdames de Gadagne et d'Aulnoy, l'exempt d'Aiguèze ne trouva pas au nid la première.
Au départ, elles n'ont pas du tout été inquiétées. Il faut avouer que la justice était assez laxiste. Ce sont quand même des familles qui ont beaucoup d'appui, qui sont puissantes, et on n'est pas allé chercher trop loin ce que pouvait être leur complicité. Mais suite à plusieurs retournements de situation, un ordre d'arrestation est émis à l'encontre des deux femmes. Je le cite d'ailleurs, si vous voulez. La cour ordonne que la femme de Gudane et la femme de Daunoy soit prise au corps et amenée prisonnière, est-ce prison de la conciergerie du palais.
Jean-Paul Sermin, vous êtes universitaire, un historien des contes. Vous avez écrit le conte de fées du classicisme aux Lumières il y a à peu près une vingtaine d'années. Où situez-vous, Marie-Catherine d'Aulnoy, dans cette longue histoire des contes ?
Eh bien, dans cette histoire, on peut dire elle a joué un rôle majeur au moment de la création de ce genre. Et aujourd'hui, elle est passée au second plan et un peu dans l'ombre, écrasée par la figure actuelle de Perrault et de ses contes et de leur médiatisation. Ce sont des contes qui sont longs, qui peuvent faire une quarantaine de pages, marqués par l'esthétique romanesque de cette époque, qu'on peut qualifier de précieuse, peut-être héritière du grand roman d'aventure qu'on appelle aujourd'hui baroque. Elle s'en amuse, elle le travestit, elle le miniaturise, elle crée des situations absurdes comme Perrault, mais il y a ce jeu avec une culture qui nous est devenue maintenant trop lointaine. Voilà. Et c'est Perrault qui maintenant incarne pour nous le conte de fées français et aussi peut-être le lien à la littérature de jeunesse est beaucoup plus facile avec Perrault qu'avec Catherine d'Aulnoy, même si aujourd'hui je crois qu'il y a plusieurs contes comme La Chatte Blanche ou Le Nain Jaune ou L'Oiseau Bleu qui sont restés très populaires encore au XVIIIe et au XIXe siècle, sont tout à fait accessibles, drôles, charmants et parfois fantastiques.
Si vous voulez, nous allons vous raconter l'histoire d'une chatte blanche.
1960.
C'est Madame d'Aulnoy qui l'a racontée.
Voici des jours et des jours que je chevauche, sans avoir pu trouver ce qui plairait à mon père. Un chien plus petit que tous ceux que nous possédons déjà dans notre palais. Je désire pourtant de toute mon âme satisfaire le caprice de ce vieillard que j'aime si tendrement. Mais je suis si las ce soir que je ne me sens pas le courage de poursuivre ma route. Mais où passer la nuit? Il n'y a pas une auberge en vue. Voici l'orage qui arrive. La pluie. Oh! Un château. Un magnifique château au milieu du bois. Quelle chose étrange. Ce n'est certainement pas celui de la Belle au bois dormant. Tout le monde y est éveillé, sans doute. Il est illuminé comme pour une fête. Je vais demander l'hospitalité. Ah ! Des mains m'ont saisi par les épaules. Des mains ont refermé la porte du château. Des mains me poussent vers l'entrée des appartements. Des mains, rien que des mains. Je ne puis leur échapper. Elles me conduisent. Mon Dieu, n'y a-t-il pas dans toute cette riche demeure un seul être humain qui, comme moi, ait un corps, des yeux pour regarder, une bouche pour parler? Ces mains sont-elles des mains amies? Se tendent-elles vers moi pour m'accueillir ou pour m'attirer vers la mort? Ah, leur pression est douce, pourtant.
Une chatte blanche. La plus belle petite chatte blanche que l'on puisse rêver.
Miaou. Fils de roi, sois le bienvenu. Ma miaularde majesté te voit avec plaisir. Les mains qui t'ont accueilli vont nous servir. Ce sont elles d'ailleurs qui s'occuperont de toi tant que tu habiteras chez moi. Elles vont t'apporter deux bisques, l'une de pigeonneau, l'autre de souris. Mais rassure-toi et mange sans crainte. Le cuisinier qui a accommodé les souris n'est pas celui qui a apprêté ton dîner.
Nadine Jasmin, nous arrivons là, dans l'endroit où a été emprisonnée Marie-Catherine d'Aulnoy. L'on précise que c'est la conciergerie, que c'est un des endroits les plus anciens de Paris et qu'elle va y rester un certain temps suite à ce complot qui n'a pas fonctionné.
Effectivement, Madame d'Aulnoy est emprisonnée le 7 décembre. Je rappelle qu'elle a accouché il y a 3 semaines seulement de son 4e enfant, une petite fille. Et elle est donc arrêtée le 7 décembre avec sa petite fille, pas son bébé manifestement, avec sa petite fille, emprisonnée et 2 hommes qui la gardent à vue nuit et jour. Elle fait contre mauvaise fortune bon cœur avec quand même beaucoup de courage. Cela étant, elle n'y est restée que 3 semaines et elle a enduré son sort, nous dit-elle en se promenant de la fenêtre au feu et du feu à la fenêtre. Elle sort très rapidement de la conciergerie et, comme la plupart des « entre guillemets aventurières » de l'époque, elle est enfermée dans un couvent. Elle en sort au bout de quelques mois, un an peut-être au maximum. Et là, c'est une autre aventure qui commence.
Mais elle part où ?
On ne sait pas exactement. Ce qui est certain, par contre, c'est que Madame de Guidan, sa mère, est passée en Espagne. Elle y est devenue espionne au service du roi contre la France, du roi d'Espagne, puis au service du roi de France. Manifestement, sa fille l'a rejointe avec ses petites filles et on la retrouve en 1690 à Paris, rue Saint-Benoît, où elle tient salon.
Je vous remercie, belle chatte, mais il ne me suffit pas de retourner chez mon père. Il faut que je lui porte un petit chien.
Tiens, voici un gland dans lequel il y a un merveilleux petit chien.
Oh, Madame la chatte, votre majesté se moque de moi.
Approche le gland de ton oreille et tu l'entendras japper.
Mais c'est vrai. Un chien qui peut tenir dans un gland doit être fort petit. Je veux le voir.
Garde-toi bien d'ouvrir le gland avant d'être arrivé chez toi. Ce petit chien, tu t'en doutes, est très délicat. Et il risquerait de prendre froid et de mourir.
Je vous obéis et je vous remercie du fond du cœur.
Nous sommes dans le quartier de Saint-Germain. Et le quartier de Saint-Germain est l'un des deux quartiers à la mode au XVIIe siècle de vie mondaine avec le Marais. Et nous voici plus précisément dans la rue Saint-Benoît. Et c'est là que nous retrouvons Madame Daulnoy après ses 20 ans d'absence en Europe, Flandre, Angleterre, Espagne, plus que probablement. La voici en 1690, tenant salon dans la rue Saint-Benoît. Pas besoin pour ça d'être véritablement fortuné. Un des plus illustres salons qui a précédé Madame Daulnoy était celui de Mademoiselle de Scudéry, qui recevait dans un logis assez sobre, pour ne pas dire presque vétuste ou misérable. Et donc c'était moins la question, même si elle est importante, du paraître et de la magnificence du salon, que le fait de maintenir une vie mondaine, de recevoir et d'être reçue.
Madame Jasmin, admettons que l'on pousse la porte de ce salon, qu'est-ce que l'on trouve dans ce salon ?
Un lit. Et ce lit permet à la maîtresse de maison de recevoir, alors c'est un lit d'apparat, un lit de parade en quelque sorte, avec ce qu'on appelle la ruelle, de part et d'autre du lit, qui est un espace ménagé pour que dames et grands seigneurs puissent venir rendre visite. Donc imaginez-vous ce lit qui est toujours placé face à une fenêtre, avec un espace à droite, un espace à gauche, des paravents pour délimiter l'espace, et là, toute une série de fauteuils et aussi ce qu'on appelle des carreaux, c'est-à-dire des coussins sur lesquels les hommes vont s'asseoir, à moins qu'ils ne s'assoient directement au sol sur leur manteau. Alors, les salons étaient des lieux vraiment de sociabilité mondaine. On pouvait aussi bien jouer à ce qu'on appelle le loisir mondain, divers petits jeux d'esprit, les devinettes, les charades, les bourrimées, les énigmes, les portraits, et j'en passe. Mais on y lisait aussi ses manuscrits, on y parlait littérature, critique littéraire, on commentait les spectacles. C'est là aussi qu'on inventait en commun, et la plupart des contes ont d'abord été imaginés, conçus, racontés, avant d'être lus et publiés dans les salons. Comme le rapporte une de ses amies, on ne s'ennuyait jamais avec elle, sa conversation était vive et enjouée, et elle écrivait au milieu du bruit, dans la foule d'un salon.
Myriam Dufour-Maître, vous êtes une spécialiste des femmes de lettres du XVIIe siècle, mais comment est-on passé de l'oral à l'écrit ? Parce que nous, on connaît Marie-Catherine Daulnoy par ses écrits. Comment pensez-vous qu'elle racontait ses contes ? Comme elle les écrit ?
Impossible à savoir, bien sûr. Les traits d'oralité dans les contes qui sont nombreux, les conversations peuvent être des indices. Mais être auteur de profession, c'est déroger pour un noble. Et pour une femme, c'est être une précieuse, ridicule, pédante, savante, etc. Donc, pas question d'avancer à visage découvert. Autrement dit, ces salons, et en particulier à partir de la Fronde, après la Fronde, quand la paix est retrouvée, que ces salons se multiplient, et que justement on a l'impression d'une sorte de poussée précieuse, de vogue, de vague, des précieuses, elles sont partout. Il y en a 19 ruelles, dit Sommès dans son dictionnaire, qui les compte, etc. Ce sont aussi des ateliers d'écriture. plus ou moins collective d'ailleurs. Mais il faut pas non plus s'imaginer que directement, de la conversation, on prenait des petites notes et puis ça devenait un livre. C'est un métier que de faire un livre, dit La Bruyère. Et cette affectation de négligence, elle écrivait sur un coin de table, là comme ça au milieu du monde, c'est une posture. Une posture obligée, notamment pour les femmes. Mais ça demande des lectures solides, du travail, d'écriture, etc.
Alors ce sont essentiellement des conteuses, hein, les conteurs, à part Perrault, qui est passé relativement inaperçu, ce sont les conteuses qui, elles, ont occupé le premier plan.
Jean-Paul Sermin.
Donc il y a Madame de Murat, une nièce de Perrault qui s'appelle l'héritier de Villandon, a joué aussi un rôle important. Et toutes ces femmes auteurs, au fond, sont proches les unes des autres. Elles ont pu, elles, se rencontrer dans des salons. Plusieurs ont eu des vies assez mouvementées, on va dire. Au XVIIe siècle, les genres fictifs, surtout le roman et le conte, sont traités de haut. Et c'est un domaine relativement libre pour les femmes et qui en profite, en quelque sorte, pour à la fois montrer la condition féminine et en particulier l'oppression conjugale, hein, les violences conjugales qu'elles subissent. Et chez Madame d'Aulnoy, comme son œuvre est tellement abondante, évidemment, elle l'a développée, elle a inventé toute une série de situations où la femme ne se soumet pas à l'autorité.
Le mouton aux cornes dorées commanda que l'on fût quérir son char. Un moment après, l'on vit venir six chèvres attelées à une citrouille d'une si prodigieuse grosseur que deux personnes pouvaient s'y asseoir très commodément. La citrouille était sèche, il y avait dedans de bons carreaux de duvet et du velours partout. La princesse s'y plaça, admirant un équipage si nouveau. Le maître mouton entra dans la citrouille avec elle et les chèvres coururent de toute leur force jusqu'à une caverne, dont l'entrée se fermait par une grosse pierre. Le mouton doré la toucha avec son pied. Aussitôt elle tomba. Il dit à la princesse d'entrer sans crainte. Elle croyait que cette caverne n'avait rien que d'affreux, et si elle eût été moins alarmée, rien n'aurait pu l'obliger de descendre. Mais dans la force de son appréhension, elle se serait même jetée dans un puits. Elle n'hésita donc pas à suivre le mouton qui marchait devant elle. Il la fit descendre si bas, qu'elle pensait aller tout au moins aux antipodes, et elle avait peur quelquefois qu'il ne la conduisît au royaume des morts. Enfin, elle découvrit tout d'un coup une vaste plaine émaillée de mille fleurs différentes, dont la bonne odeur surpassait toutes celles qu'elle avait jamais senties. Une grosse rivière d'eau de fleurs d'oranger coulait autour. Des fontaines de vin d'Espagne, de rossoli, d'hypocrase et de mille autres sortes de liqueurs formaient des cascades et de petits ruisseaux charmants. Le mouton, Madame d'Aulnoy.
C'est d'abord la conteuse qui a écrit le plus de contes de fées à l'époque. 25 longs contes de fées, ça fait presque 1000 pages dans une édition moderne. Et si je devais caractériser ces contes d'un mot, je parlerais peut-être de luxuriance, d'exubérance. Et une forme de complexité. Complexité parce qu'on s'éloigne du schéma typique du conte qui peut être assez simple. Madame d'Aulnoy introduit beaucoup d'éléments romanesques avec des épisodes qui se succèdent les uns aux autres, des histoires qui sont parfois parallèles et enchevêtrées. Il y a vraiment une complexité narrative qu'on retrouve pas du tout chez d'autres conteurs ou conteuses de la période. Et d'autre part, je dirais que ce qui la caractérise, c'est vraiment le mélange des genres.
Justement, Nathalie Grande, que retrouve-t-on dans les contes de Marie-Catherine d'Aulnoy comme éléments qui proviennent du roman et de ces romans du XVIIe siècle?
Un certain nombre d'invraisemblances, parce qu'une grande partie du roman du XVIIe a la tentation d'un romanesque échevelé. Ça veut dire excessivement d'action qui se déroule de manière extrêmement rapprochée, des batailles où un homme seul peut prouver sa valeur contre des milliers d'hommes, des naufrages dont on survit bien évidemment, des retrouvailles tout à fait inattendues et inespérées. Et ce genre d'invraisemblance, on peut les retrouver. C'est pas du merveilleux épique, mais c'est du merveilleux toujours qui existe dans les contes. Donc, par voilà, l'usage d'un certain merveilleux qui finalement traverse tout le XVIIe siècle, à travers les longs romans, à travers par exemple ces genres nouveaux qui sont le genre de l'opéra. Mais il y a également sa réciproque, c'est-à-dire la recherche de la vraisemblance, le désir de sentiments plus crédibles, d'un cadre spatio-temporel référentiel. C'est le genre qui a été, sinon mis au point, en tout cas porté vers son plus grand degré de qualité avec Madame de Lafayette et la Princesse de Clèves. Voilà. Donc effectivement, Madame d'Aulnoy, tout en ayant elle-même d'ailleurs, hein, parce qu'elle n'a pas écrit comme que des contes, hein, elle a écrit aussi des romans, parfois assez invraisemblables, comme Hippolyte, comte de Douglas, mais des romans parfois plus historiques, peut-être le comte de Warwick peut être cité, son dernier roman. Donc il y a aussi cette tentation du référent historique qui assure une crédibilité et qui par là même plaît également au lectorat.
Il y a une hiérarchie en termes de genre à cette époque-là, au XVIIe siècle.
Absolument, et c'est vrai que le conte est un genre de divertissement. Dans cette hiérarchie des genres qui est occupée à son sommet par le grand genre de l'épopée, puisque genre le plus noble, le plus ancien depuis Homère, effectivement, les genres versifiés, par exemple, hein, sont mieux reçus que les genres en prose. Les fictions narratives étant en prose, par là même, ne peuvent prétendre à cette langue des dieux qui est la langue en vers, la langue poétique. Et d'autre part, les genres qui prétendent également donner des leçons morales et avoir une utilité morale, ce que fait aussi la tragédie et la comédie à sa manière, le conte a plus de difficultés à affirmer son intérêt moral. Et d'où le fait qu'il est, sur le plan de la légitimité, moins bien reçu. Ce qui ne veut pas dire que le discours des doctes sur la hiérarchie des genres corresponde forcément au goût des lecteurs et lectrices.
Donc les deux sources d'influence majeures, c'est bien sûr le folklore et c'est aussi le courant romanesque. Et il y a en quelque sorte des affluents,
Nadine Jasmin,
qui viennent mêler leurs eaux à ces deux grands courants. Je pense par exemple à l'influence pastorale. Il faut savoir que Honoré d'Urfé, au début du XVIIe siècle, fait paraître L'Astrée, vaste roman fleuve, là aussi, qui occupe des milliers de pages, qui a influencé non seulement toute une partie de la littérature, mais aussi énormément les arts décoratifs. L'univers des bergers, de la pastorale, se retrouve dans la décoration, se retrouve en musique, se retrouve dans le spectacle. Ça, c'est un affluent. Et puis, il y a aussi la veine mythologique. L'histoire d'amour et Psyché est vraiment omniprésente dans les contes. Et puis, les animaux. Et c'est vrai que Madame d'Aulnoy est très intéressée par la thématique de la métamorphose.
C'est évidemment un élément de fantastique, enfin une dimension fantastique. Ça a aussi une valeur, au fond, de situation comique, puisque les discours littéraires les plus convenus sont attribués à ces animaux ou à des couples improbables, soit deux animaux, soit un animal et un être humain. Je pense aussi que ça permettait d'aborder de façon indirecte la dimension physique de l'amour qu'une femme à l'époque ne peut pas traiter directement parce que elle a un devoir de pudeur. Et donc cette fantaisie a permis aux femmes d'explorer des zones qui leur étaient normalement interdites.
Là, je pense par exemple à la biche au bois, cette belle biche blanche traquée par le prince et blessée par lui, et évidemment une princesse métamorphosée. Il y a des scènes très érotiques dans lesquelles la biche mange dans la main du prince qui la soigne, s'en occupe avec amour. Évidemment, les animaux, c'est aussi un support à la satire, et Madame d'Aulnoy, à plusieurs reprises, cite La Fontaine. Donc la fable peut aussi être une espèce de sous-courant de temps à autre. J'ai également évoqué la veine moraliste. Il y a toute une littérature des moralistes à la fin du XVIIe siècle, La Bruyère, La Rochefoucauld, Saint-Simon et bien d'autres. Et tout ça est mis ensemble, avec plus ou moins de bonheur selon les contes, et constitue cette espèce de grand chaudron bouillonnant que sont ces contes de fées.
Après avoir éprouvé tout ce qu'un long hiver a de plus rigoureux, le retour de la belle saison invita plusieurs personnes d'esprit et de bon goût d'aller à Saint-Cloud. Tout y fut admiré, tout y fut loué. Madame D, qui s'était lassée plus vite que le reste de la compagnie, s'assit au bord d'une fontaine. Ah, « Laissez-moi ici, » dit-elle. « Peut-être que quelques sylvains ou quelques dryades ne dédaigneront pas de venir m'entretenir. » Chacun lui fit la guerre sur sa paresse. Elle continua ses instances là-dessus d'une manière si pressante que cette charmante troupe s'éloigna. Après avoir tout parcouru, elle revint dans l'allée sombre où Madame D l'attendait. « Ah, que vous avez perdu !» s'écria la comtesse de F en l'abordant. « Ce que nous venons de voir est merveilleux !»« Et ce qui vient de m'arriver, » lui répliqua-t-elle, « ne l'est pas moins. Sachez donc que jetant les yeux de tous côtés pour distinguer 1000 objets différents que j'admirais, j'ai vu tout d'un coup une jeune nymphe proche de moi, dont les yeux doux et brillants, l'air enjoué et spirituel, les manières gracieuses et polies m'ont causé autant de satisfaction que de surprise. J'allais lui parler lorsqu'elle m'a interrompu par ses vers. On cesse de vanter en voyant ces beaux lieux, les retraites délicieuses qu'habitaient autrefois les dieux dans le sein d'une paix durable. Ici règne la majesté. Ici, d'une auguste bonté, la grandeur est inséparable. Mais rien toutefois d'admirable ne vit en frapper mes yeux que la princesse incomparable pour qui s'embellissent ces lieux. « Vous êtes trop heureuse, » s'écria la marquise, « d'être dans un commerce si agréable, tantôt avec les muses, tantôt avec les fées. Vous ne pouvez pas vous ennuyer. Et si je savais autant de contes que vous, je me trouverais une fort grande dame. » Saint-Cloud, Madame d'Aulnoy.
L'insertion du conte à l'intérieur du roman, j'allais dire, ressemble à sans doute ce qui se passe dans les cercles mondains.
Nathalie Grande.
Raconter des contes, essayer d'imaginer des suites, ça fait partie donc d'un jeu mondain. Et dans le roman, par exemple, l'histoire d'Hippolyte, comte de Douglas, est un roman, enfin, est un nouvel historique, né de la pure imagination de Madame d'Aulnoy. Le conte, de ce point de vue-là, n'est pas forcément différent par nature, c'est toujours de la fiction, mais c'est une fiction qui accepte l'invraisemblance du merveilleux. En fait, c'est une histoire, l'histoire d'Hippolyte, comte de Douglas, où Hippolyte est amoureux, est à la recherche donc de celle dont il a été séparé, et il découvre qu'elle est retenue, sinon prisonnière, en tout cas hôte dans un couvent, et donc il cherche à la rencontrer. Il a l'idée, pour l'approcher, de se déguiser en compagnon d'un peintre qui est chargé de faire le portrait de la mère abbesse. Il fait semblant de broyer les poudres de couleur et l'abbesse, qui prend la pose pendant qu'on fait son portrait, s'ennuie. Et c'est ainsi que Hippolyte, qui se cache sous le nom de Hyacinthe, est invité à trouver une histoire qui va détendre l'atmosphère et permettre à l'abbesse d'avoir le visage souriant qu'elle entend laisser à la postérité. Et c'est ainsi donc que commence l'histoire de l'île de la Félicité. Alors je pense que c'est là où Madame d'Aulnoy montre qu'elle est une romancière savante. Parce qu'en fait, cette histoire, qui donc est absolument un excursus par rapport à l'histoire d'Hippolyte, en fait, va entretenir une histoire. Parce que l'île de la Félicité, c'est un conte de fées qui se termine mal. Ce prince venu du froid, qui tombe amoureuse de la plus belle des princesses, qui est emporté par elle sur l'île de la Félicité, qui y vit merveilleusement bien, mais qui va se rendre compte, parce qu'il pense qu'il a passé quelques jours auprès d'elle dans le plus grand bonheur, et un jour, il lui pose la question de savoir depuis combien de temps il est là, et elle lui apprend que ça fait 300 ans qu'il vit dans ce plus grand bonheur qui est passé en un éclair. Pour lui, c'est une catastrophe. Et il demande donc à rentrer dans ce monde des humains, loin de l'île de la Félicité. Elle essaye de le détromper, de lui dire que voilà, il n'y a plus personne qui l'attend, etc. Il s'entête. Et il décide de repartir. Elle le confie à ce moment-là donc à quelqu'un qui est chargé de le mener, une charrette, en lui disant qu'il ne faut pas qu'il descende. Évidemment, il descend et le temps le rattrape et il meurt. Donc c'est un conte qui met en garde contre les risques de l'amour, donc et le caractère éventuellement mortifère. Et de ce point de vue-là, bah, c'est un conte qui, pour une abbesse, est un conte moralisateur tout à fait acceptable. Et ce disciple du peintre qui raconte une histoire moralisatrice, on peut tout à fait imaginer qu'il pourrait très bien distraire une jeune personne malade qui est également dans le couvent et qui est donc évidemment l'amante que cherche à rejoindre Hippolyte. Donc, voyez, ce conte à la fois double en quelque sorte l'intérêt romanesque en introduisant une deuxième histoire dans le roman, toujours intéressant, et en plus, du point de vue du fonctionnement narratif du roman dans son ensemble, eh ben, il permet également de faire avancer l'action.
C'est la naissance d'un genre, le conte de fées littéraire français et féminin.
Oui, dans la mesure où le conte de Madame d'Aulnoy, L'île de la Félicité, est vraiment le premier qui ouvre une véritable mode, une vague, une déferlante de contes de fées dans la décennie, surtout 1690-1710, avec des relais ultérieurs. Non, dans la mesure où le merveilleux existe depuis au moins l'Antiquité pour ses traces écrites. Les fées sont des personnages médiévaux, eux-mêmes héritiers des parcs grecs, les maîtresses du destin des hommes. Et le merveilleux parcourt aussi bien la chanson de geste au Moyen-Âge, les fabliaux et bien d'autres genres. Par contre, les structurer ces contes du folklore et les passer à l'écrit dans le contexte du XVIIe siècle, ça c'est une nouveauté. Le conte merveilleux, en fait, c'est un schéma narratif particulier et le conte se définit avec des rôles types. Le héros, le faux héros, l'agresseur, l'objet recherché, l'auxiliaire, l'opposant. Des rôles types qui peuvent être endossés par des personnages différents. Par exemple, si vous êtes l'agresseur, vous pouvez être un géant, un ogre, un sanglier féroce, le diable, etc. Et puis, le conte merveilleux, c'est aussi une succession d'actions qui se déroule suivant un certain ordre. Par exemple, pour que le conte démarre, mais il faut qu'il y ait un manque ou un équilibre qui soit perturbé. Par exemple, la famine pour vous pousser hors de votre chaumière à gagner votre mie. Ou il faut une fille à marier qui va chercher son prince ou inversement. Donc, il y a des séquences comme ça narratives qui se succèdent dans le conte suivant différents ordres possibles. Et on a pu définir le conte comme vraiment un récit narratif à 7 personnages et une trentaine de fonctions différentes.
Il y a une typologie des figures masculines tout à fait intéressante. Aussi bien du point de vue des figures paternelles, figures de rois, qui sont souvent des rois impuissants, faibles, menés par le bout du nez par leurs femmes, ridicules également. Les princes, y compris le fameux prince charmant, puisque vous savez peut-être que cette expression de prince charmant vient aussi d'un conte de Madame d'Aulnoy. Elle n'a pas seulement inventé le nom du genre, conte des fées, le titre de son premier recueil, mais elle a aussi inventé ce nom de prince charmant, puisque c'est le héros de l'Oiseau bleu. Donc les princes, si charmants soient-ils, souvent ils ont besoin d'aide. Et c'est là qu'interviennent donc les héroïnes, qui sont souvent effectivement celles qui prennent des initiatives et sont capables de sauver les princes. La princesse printanière, comme le titre l'indique, raconte l'histoire donc de cette belle princesse qui a la malchance d'être la fille de parents qui ne sont pas à la hauteur de cette merveille qui est leur fille. Ça commence un peu comme la Belle au bois dormant. Ils mettent du temps à avoir une fille. Ils ont enfin cette fille merveilleuse qui arrive. Il y a toute une scène de choix aussi de nourrice où une nourrice particulièrement déplaisante apparaît et que la reine écarte avec beaucoup de mépris. Évidemment, la nourrice est une fée qui va donner du fil à retordre à la mère et à la fille. Mais bon, pour finir, évidemment, il y a un rétablissement. Et le rétablissement, c'est le fait que la fille va devoir être enfermée jusqu'à l'âge de ses 20 ans dans une tour. privée de tout contact avec la réalité, privée de la nature, privée de la société humaine. Et cette fille, elle en peut plus au bout d'un moment. Elle demande à voir. Parce qu'on lui a dit que voilà, sa réclusion va se terminer par un mariage merveilleux avec un prince merveilleux dont l'ambassadeur arrive. Bon, elle dit, je veux au moins voir l'ambassadeur. Et donc, on fait un tout petit trou dans le mur et elle voit l'ambassadeur qui s'appelle Fanfarinet. Évidemment, c'est le premier homme qu'elle voit, donc elle est éblouie. Et donc, dès qu'on la sort de la tour pour le mariage, que fait-elle? Elle glisse un peu discrètement à l'oreille de Fanfarinet que certes, il n'a rien dit, mais qu'elle comprend tout ce qu'il n'a pas dit, et qu'elle est prête à le suivre dès qu'il lui donnera le premier signe pour aller vivre leur amour, et que, on y soit qui mal y pense, il n'y a pas à s'inquiéter. L'ambassadeur est un peu surpris de cette déclaration inattendue, mais il suit. C'est elle qui organise tout, qui organise la fuite, qui embarque l'ambassadeur, qui l'emmène donc sur une île, l'île des écureuils, et là, où elle devrait filer le parfait amour, en fait, l'amant qu'elle s'est choisi est tout à fait déceptif. Lui, vivre d'amour et d'eau fraîche sur une île, ça ne lui convient pas. C'est elle qui prend les initiatives, qui le sauve, qui lui donne à manger, qui lui donne à boire. La nature lui fournit du lait, du miel, etc. Elle lui donne, et à chaque fois, au lieu de partager avec elle, il mange tout, il boit tout, et elle lui dit, mais voilà, évidemment, il y a plusieurs étapes, trois, forcément. Et au bout du compte, elle décide de se satisfaire toute seule, en mangeant toute seule les tartelettes excellentes qu'elle a trouvées. Et là, il menace de la poignarder, une petite voix prévient la princesse printanière, elle le guette, elle se réveille, et c'est elle, pour finir, qui le poignarde. Les bateaux, ses parents qui étaient partis à sa recherche, les bateaux arrivent, elle est reprise, le prince qui devait l'épouser s'étonne de voir que son ambassadeur a disparu, on dit oui, il est tombé dans un puits, il pose pas plus de questions, elle se marie, et tout finit bien. Et ce qui me fascine dans cette histoire, c'est une histoire de libération, de fille qui se libère par rapport à ses parents, par rapport à l'éducation qu'elle n'a pas eue, qui se libère aussi par rapport à un certain nombre de menaces masculines et par rapport aux conventions. Elle refuse d'entrer dans les stéréotypes de la fille soumise qui va épouser le prince charmant. Elle prend quelqu'un qui n'est pas d'ailleurs un bon choix. Ben, c'est le premier qu'elle trouve. Il faut dire qu'elle n'a pas eu le choix.
On peut deviner aussi beaucoup de violence parfois dans les contes de Marie-Catherine d'Aulnoy.
Alors la violence fait de toute façon partie du conte de fées, parce que la violence est un trait de l'inconscient et que le conte porte une part de notre inconscient, collectif au moins. Il n'y a pas forcément viol, mais il y a la peur du viol. J'allais dire la peur du viol, d'une certaine façon, fait son effet avant même, et même sans viol. Et par exemple, la scène que je vous racontais tout à l'heure, la scène de la princesse printanière qui se réveille dans la nuit parce que Fanfarinet, qui a faim, lui en veut et vient la poignarder, il est très clair que cette scène de réveil de la princesse endormie qui voit au-dessus d'elle un homme qui vient avec le poignard dégainé pour la transpercer est une image de viol.
Mais comment pouvait recevoir ces contes les hommes, comment pouvaient-ils réagir à ce genre de propos?
La querelle des femmes ou la guerre des sexes est évidemment une réalité qui parcourt les siècles, hein, bien avant le XVIIe et jusqu'à nos jours. Mais en même temps, il ne faudrait pas majorer ce qui reste un jeu de salon. N'empêche que ça reste des figures de femmes qui, jusqu'à un certain point, s'émancipent.
Et dans Finette Sandron, cette jeune femme est sacrément forte.
Finette Sandron, c'est effectivement un conte de Madame d'Aulnoy parmi les premiers qui opère la synthèse entre une première partie du conte qui est le Petit Poucet et une deuxième partie du conte qui est plus proche de Cendrillon. Et elle n'a pas seulement soudé ces deux contes, elle féminise, comme bien souvent, le personnage héroïque, d'où cette Finette qui fait écho, en tout cas, au Petit Poucet du folklore. Et donc sa Finette est un personnage astucieux, débrouillard, elle intervient pour sauver ses sœurs et surtout échapper au couple d'ogres qui les a fait prisonnières. Et s'ensuit une scène impressionnante au cours de laquelle Finette Sandron, pour se débarrasser du couple d'ogres, parvient à enfourner l'ogre et elle le réduit en cendres. Ça, c'est une astuce caractéristique du conte folklorique, mais non contente d'avoir trucidé l'ogre, elle parvient également à décapiter l'ogresse par surprise. Mais l'histoire n'est pas finie, et c'est là que s'opère la soudure avec la suite de Cendrillon, dans la mesure où les deux sœurs réduisent Finette Cendron en quasi-esclavage, et elle devra alors se procurer les habits de bal, paraître déguisée, etc., et être retrouvée grâce à sa pantoufle. Mais oui, c'est une héroïne vraiment qui ne recule pas devant la violence jusqu'à son ascension finale jusqu'au trône.
C'est ainsi que cette nuit se passa. La reine, qui voulait engager le roi charmant par tous les témoignages qu'elle pourrait lui donner de son attention, lui envoya des habits d'une richesse et d'une magnificence sans pareille, faits à la mode du pays, et l'ordre des chevaliers d'amour qu'elle avait obligé le roi d'instituer le jour de leurs noces. C'était un cœur émaillé de couleurs de feu, entouré de plusieurs flèches et percé d'une, avec ces mots « Une seule me blesse ». La reine avait fait tailler pour charmant un cœur d'un rubis gros comme un œuf d'autruche. Chaque flèche était d'un seul diamant, longue comme le doigt. Et la chaîne où ce cœur tenait était faite de perles dont la plus petite pesait une livre. Enfin, depuis que le monde est monde, il n'avait rien paru de tel. Le roi, à cette vue, demeura si surpris qu'il fut quelque temps sans parler. On lui présenta en même temps un livre dont les feuillets étaient de vélin, avec des miniatures admirables. La couverture d'or chargée de pierreries et les statues de l'ordre des chevaliers d'amour y étaient écrits d'un style fort tendre et fort galant. L'on dit au roi que la princesse qui l'avait vu le priait d'être son chevalier et qu'elle lui envoyait ce présent. L'oiseau bleu.
Myriam Dufour-Maître, vous dites que les précieuses interrogent la galanterie comme valeur et vous ajoutez « Le vocable de précieuse marque une spécificité des femmes en terre galante ».
Mais oui, parce que la galanterie, c'est pluriel. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un champ de bataille de définir la galanterie, en particulier sur le plan éthique. C'est-à-dire comme code de comportement des hommes à l'égard des femmes. Cela va de la politesse mondaine, toute simple, jusqu'à l'invite sexuelle plus ou moins enrobée, mais aussi jusqu'à l'assaut séducteur, trompeur, voire violent, de la forteresse de la pudeur féminine. Donc, dans les contes de Marie-Catherine d'Aulnoy, on va trouver largement ce qu'on appelle donc, à l'époque, la galanterie sur le plan esthétique, c'est-à-dire un art d'écrire qui est indissolublement lié à une sorte d'art de vivre qui se développe dans les salons, dans ce qu'on appelle les ruelles à l'époque. Cet air galant, poli, enjoué, qui sait mener la conversation. Et cette esthétique, elle est propre à tout le siècle. Ce qui diffère fondamentalement, c'est justement la position à l'égard de la sexualité. Hein, pour aller vite dans l'esprit de l'histoire de la sexualité de Foucault. À savoir que les femmes ne sont pas forcément prêtes désormais à céder dans les termes exactement posés par les hommes. Et donc on va appeler précieuse celle qui refuse, par exemple, le mariage au profit du célibat lettré, ça c'est le cas de Madeleine de Scudéry, refuse la sexualité au profit de l'amitié ardente mais platonique qui leur laisse leur liberté.
Vous avez des personnages qui vous viennent en tête ?
Oui, alors, des héroïnes actives, dans La Princesse Rosette, dans L'Oiseau Bleu, dans L'Abeille et l'Oranger, qui n'attendent pas tout endormi le prince charmant. Elles vont même le chercher aux enfers, comme dans certains Serpentins Verts. Hein, donc c'est Orphée hein, inversé. Elles sont capables de guerroyer. Elles réussissent même des coups d'État dans La Bonne Petite Souris. Et ce sont aussi, pour une large part, des héroïnes lettrées. Parce que enfermer 20 ans dans une tour, en attendant que les parents consentent ou que la fée consente à lever la malédiction, que faire à moins que l'on ne lise ?
Il me semble que l'on associe le terme galant aux hommes et celui de précieuse aux femmes. Est-ce que c'est réducteur ce que je viens de dire ?
Non, pas du tout, parce que une femme galante, qu'est-ce que c'est? C'est une femme qui tombe. C'est une débauchée. Pour une femme mariée, avoir une galanterie, ça veut dire être adultère. Donc, comment être, et ça c'est une des formulations des précieuses, être galante, avoir l'air galant, ce fameux air galant auquel tout le siècle aspire, sans être galant, sans aimer les galants, sans tomber dans la galanterie, qui veut dire la débauche pour une femme. De toute façon, il n'y a pas beaucoup d'espace pour les femmes. Parce que si elles se refusent, elles sont prudes, horreur. Si elles hésitent, elles sont coquettes, horreur. Si elles refusent l'amour, elles sont mais aspirent à autre chose, elles sont précieuses. Et si elles tombent, elles sont galantes. Alors, il reste peut-être la vertu de la femme mariée au fond de sa cuisine. Il n'y a que les faits pour résister à la norme hétérosexuelle du mariage reproductif. C'est-à-dire pour cultiver les lettres, s'élever finalement au-dessus de la condition humaine et en particulier de la condition féminine.
Nadine Jasmin, vous avez compris pourquoi les faits étaient aussi importants et pouvaient tout faire dans les contes de Marie-Catherine d'Aulnoy ?
Les fées sont vraiment un personnage dominant, peut-être parce qu'elles sont symboliques. On pense souvent au personnage de la fée comme un personnage tout-puissant qui peut vous accorder des dons merveilleux ou au contraire maléfiques. Les fées peuvent tout faire. Elles peuvent vous téléporter, vous rendre invisible, vous donner des objets magiques extraordinaires, par exemple une petite noix dont vont sortir, ou une petite boîte dont sortiront des dizaines d'ouvriers miniatures qui vont bâtir tout un palais et toute une ville en un instant. Mais la fée a pu aussi être vue comme un symbole finalement du pouvoir des femmes de lettres qui, elles aussi, sont en capacité de... Je ne dirais pas transformer le monde, mais en tout cas le recréer à leur manière. Et on a pu faire un parallèle intéressant entre la baguette de la fée et la quenouille, qui est aussi une métaphore de la parole qui se tisse et du fil qui se dévide.
Est-ce que la parole est un puissant ressort narratif aussi ?
La parole dans les contes, c'est toujours une parole magique. La parole est toute puissante. Dire quelque chose, l'énoncer, le fait advenir. Il suffit de désirer parfois pour être accompli. Il suffit de doter tel enfant au berceau, tel nourrisson de telle qualité ou au contraire de tel défaut pour que ça advienne. Et cette toute-puissance de la parole, mais là aussi on peut en faire une métaphore de cette prise de parole, sinon prise de pouvoir des femmes de lettres à l'époque, qui se battent pour accéder à la culture, pour devenir elles-mêmes des autrices, terme dont je rappelle qu'il date du XIVe siècle, et qui s'émancipe là aussi dans cette voie de la littérature. Et en ce sens, la parole, et la parole des fées a fortiori dans les contes, est vraiment un symbole de cette puissance du verbe.
Nathalie Grande, comment vit-on en tant qu'écrivaine ou autrice de contes de fées au XVIIe siècle, comme Marie-Catherine d'Aulnoy ?
Alors pour les femmes qui souvent sont des aristocrates qui écrivent, il n'est pas évident de publier. L'éthos féminin veut une modestie qui est censée vous donner une posture justement de discrétion et de modestie, y compris dans la société, et certainement pas donc d'assumer un statut de femme publique qui est forcément et celui d'une femme qui publie. C'est-à-dire que à la fois ce sont des femmes extrêmement expérimentées qui ont pratiqué plusieurs genres littéraires, qui ont publié ou font publier, mais elles ne mettent pas leur nom sur la couverture, elles gardent un anonymat qui parfois est de façade, hein, mais qui préserve justement leur dignité sociale. Elles évitent de mettre leur nom et en même temps, on se rend compte qu'elles ont cette tentation. Madame d'Aulnoy le fait, c'est-à-dire que le premier œuvre qu'elle publie est complètement anonyme. Il n'y a rien sur la page de titre, sauf Hippolyte, comte de Douglas. Puis viennent des publications où il y a Madame, une étoile, deux étoiles, trois étoiles. Donc on sait que c'est une femme. Et puis elle vient Madame D. Alors, Madame D, c'est un indice. Les lecteurs parisiens sont capables d'identifier Madame D. En revanche, à Grenoble ou à Toulouse, Madame D, on ne la connaît pas. Donc là, l'anonymat est préservé. Et puis pour finir, et c'est sa dernière œuvre, le comte de Warwick paraît donc sous le nom de Madame d'Aulnoy sur la page de titre. Donc voilà, il y a toute cette progression-là qui montre la difficulté pour les écrivaines. Ça se fait progressivement et de manière tout à fait exceptionnelle. Certaines ont même accédé au statut d'écrivaine professionnelle, c'est-à-dire en essayant de gagner de l'argent. Pour Madame d'Aulnoy, on n'a pas de certitude. Est-ce qu'elle a été payée par des libraires? Moi, je pense que c'est tout à fait vraisemblable, mais on n'aura jamais un contrat d'édition qui va nous prouver qu'effectivement, elle a touché de l'argent pour les textes qu'elle a confiés à tel ou tel libraire.
La France du XVIIe siècle, c'est la France d'Ancien Régime. Donc il faut bien se représenter qu'à cette époque, 5% peut-être de la population sait lire et que l'écrit, la lecture ne sont pas les modes de communication privilégiés. Bien sûr, l'élite, surtout masculine, apprend à lire, à écrire, mais les femmes ont une éducation mondaine et religieuse. Donc les contes sous leur forme écrite concernent l'élite, l'aristocratie et la bourgeoisie qui l'imite. En revanche, le genre du conte est un genre traditionnel, caractéristique de la littérature orale. Ça veut dire que partout, dans toutes les couches de la société, en France comme dans tous les autres pays, on raconte des contes. Et il ne faudrait pas croire que ce soit uniquement destiné aux enfants. La pratique du contage est une pratique extrêmement répandue.
C'est un genre que les femmes ont, qu'une femme a créé et qui a été repris par beaucoup d'autres femmes et d'hommes. Et Madame d'Aulnoy est à la fois une figure exceptionnelle, mais en même temps n'est pas une figure unique. C'est-à-dire qu'elle fait partie effectivement d'un ensemble. Je pense à Madame de Murat, à Catherine Bernard, Marie-Jeanne l'Héritier. On a trop tendance, dès qu'on cherche à désinvisibiliser les femmes créatrices ou les femmes savantes, etc., etc., à les voir comme des exceptions. Et en fait, il y a une continuité historique. Et aujourd'hui, d'une certaine façon, en mettant en évidence comme ça des figures exceptionnelles, eh bien, on contribue paradoxalement à invisibiliser en fait l'ensemble et la continuité historique de cette présence.
Le palais était d'or pur. Il s'élevait dessus des figures de cristal et de pierreries.
Il y a un plaisir d'essence.
Qui représentaient le zodiaque et toutes les merveilles de la nature, les sciences et les arts, les éléments, la mer et les poissons,
la
terre et les animaux, les chasses de Diane avec ses nymphes,
les nobles exercices des Amazones. Il y a tout un imaginaire vraiment plus que gustatif qui se déploie dans les contes. Et puis, il y a aussi une jouissance des matières précieuses, des pierres, de la décoration. Il y a tout un aspect, on a pu parler du rococo chez Madame d'Aulnoy. Voilà, de tout un plaisir aussi ornemental et décoratif. Alors, bien sûr, le modèle versaillais n'est pas loin, bien sûr. Ces palais somptueux s'élevant dans des jardins féeriques. Mais il y a vraiment une jouissance chez elle qui est un plaisir du verbe, mais qui est aussi un plaisir de l'oralité. On baigne vraiment, je trouve, dans un plaisir d'essence très, très perceptible dans les contes.
Et parmi tant de différentes choses, il n'y paraissait ni homme, ni garçon, pas un pauvre petit amour. La fée avait été trop en colère contre son léger époux pour faire grâce à son sexe infidèle.
C'était Marie-Catherine d'Aulnoy, Si les fées m'étaient comptées. Merci à Nadine Jasmin, Myriam Dufour-Maître, Nathalie Grande et Jean-Paul Sermin. Lecture, Mélodie Auru. Documentation Radio France, Véronique Le Faller, Corinne Chauvel. Archivina, Sabine Dahuron. Prise de son, Yvan Charby, Cédric Châtelus, Nicolas Leroulé, Jean-Baptiste Etchepare-Borde, Marie-Claire Oumabadi. Mixage, Dof Arguéride. Chargée de programme, Sandrine Chaperon. Coordination, Emmanuel Laurentin. Un documentaire de Dominique Prusac et Anne Fleury.